7h15, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
J'ai regardé Libération tout comme toi, le journal français qui parle qu'après les flammes, les riches qui arrosent Notre-Dame de Paris, et c'est à coût de 200 millions, les plus grandes fortunes de France, mais il y a quand même un enjeu fiscal autour de ça.
Oui, en fait, quand on fait des dons, ultimement, on demande à nos voisins, à nos amis et à la population d'endosser notre don, c'est-à-dire de dire « Moi, j'essaie de donner 100$ à Notre-Dame de Paris, je vais avoir un avantage fiscal, donc mon 100$ va coûter moins cher, et la portion d'impôt que je ne verserai pas à l'État grâce à ça, ou qui sera versée à Notre-Dame de Paris, ben ce sera l'ensemble de la population qui paiera. » Donc, les riches de ce monde, implicitement, si la fiscalité est maintenue, vont demander au reste de la population d'avoir, si on veut, la visibilité d'avoir fait le don, mais de le faire financer par la population. On nous donne des exemples. Par exemple, l'impôt des contribuables en France donne une réduction de 66% du montant du don en impôt. Donc, vous donnez 1000 euros, vous avez, selon Libération, 660$ d'impôt en moins. Il y a l'impôt sur la fortune immobilière, donc si vous avez beaucoup d'actifs immobiliers, 75% du montant du don va venir réduire ce type d'impôt-là. Et pour les entreprises, on parle d'un autre 60%. Donc, on dit finalement, chers Français, vous avez beau faire une campagne de fou, ça va faire moins d'argent pour l'État, et on décide nationalement de payer les dons implicitement. Et on dit, attention, si on va même soutenir une proposition qui est de considérer finalement Notre-Dame de Paris comme une œuvre d'art et qu'on la traite ainsi, ça pourrait monter les dons à un avantage fiscal de 90% du montant du don pour les particuliers et 50% pour les entreprises.
Ce que j'ai trouvé singulier, disons, c'est de voir, je ne sais pas laquelle, c'est Arnaud ou Pinault, mais en tout cas, le porte-parole qui dit, voici, on allonge 200 millions, mais en même temps, on pense qu'on devrait avoir 95% de retour d'impôt.
C'est un peu fou, hein?
Faut pas être gêné, là.
En plus, tu sais, quand tu y penses, c'est donner aux plus riches de ce monde puis aux donateurs le pouvoir de décider ce qui vaut la peine d'être alloué fiscalement. Et c'est là tout le problème. Tu sais, on veut donner des avantages fiscaux aux gens pour les encourager à donner et pour que les organismes et les OBNL, les organismes de charité aient plus d'argent. Mais d'un autre côté, on permet à des gens de décider de la fiscalité nationale, qui est pas optimale nécessairement. Tu sais, au Québec, c'est le même principe, Paul. Si je donne 10 millions d'euros, bon, mettons, Paul, ça m'arrive, tu me diras, Pierre-Yves, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais disons que j'essaie de donner 10 millions d'euros. Ben, sur mon don de 10 millions d'euros, mon vrai don net à moi va être de 5 176 819,73. Et je vais demander au gouvernement d'assumer 4 823 180,27. Il y aura donc 10 millions pour l'organisme, mais moi, je vais avoir payé 5,2 millions. Tu comprends? Je vais avoir fait payer par le reste de la population. Mais ce qui est surprenant surtout, dans ce cas-là, c'est pas d'aider Notre-Dame de Paris. C'est pas de faire une campagne pour lever des fonds. C'est la rapidité avec laquelle on a une réponse des mieux nantis qui ont tout fait dans leur vie pour payer le moins possible aux autres, tu sais, puis de minimiser l'impôt, puis pour sauver les pauvres, non. La faim dans le monde, non. Payer sa juste part à la société, non. Mais pour donner pour de la brique, puis avoir son nom dans l'histoire, sur une plaque, en commémoration de la reconstruction, si on est prêt à donner, ça nous donne un peu l'échelle des valeurs humaines sans être populiste.
Hier, je regardais le compte de la Fondation de l'Abbé Pierre, qui s'adressait finalement, c'est ça, à ces grandes fortunes françaises. On apprécie le geste. Notre-Dame de Paris, les funérailles de l'abbé Pierre ont eu lieu dans cette église. Mm-hmm. Il vous en reste un peu quand même pour les pauvres?
C'est pas
formulé comme ça, là, mais c'est ça gentiment que ça voulait dire.
Tu sais, avec 1 milliard d'euros, comment tu peux sauver le monde dans le monde de la mort? Quand même, quand tu y penses, tu sais, combien tu peux aider tes gilets jaunes, tes collègues, tes voisins? Comment tu peux améliorer la qualité de vie des Français versus... Mais c'est sûr que c'est un monument, mais
en même temps,
ça choque.
Oui, mais en même temps, tu veux reconstruire. Fait que si t'as pas cet argent-là, il n'y a pas d'assurance.
On préfère une solution à la québécoise, là, prendre le moins cher soumissionnaire, finir ça en plywood, puis mettre un peu de bardeau d'asphalte dessus.
Une chance que t'es pas mandaté pour l'architecture. Hein? Voiture électrique, les subventions fédérales vont être disponibles à partir du mois de mai?
Oui, et qui on subventionne finalement, Paul? Parce que j'ai fait des petits calculs ce matin. Si t'as 5 000$ au fédéral, puis 8 000$ au provincial, c'est 13 000$ pour une voiture qui peut aller jusqu'à 55 000$. Mais quand tu y penses, si tu fais 50 000$ par année, puis t'achètes une voiture de, disons, 45 000 plus taxes, donc 51 739 pièces, je t'enlève la subvention, il t'a quand même coûté presque 39 000 $ ton véhicule. 39 000 $ avec ton salaire marginal, toi, il faut que tu gagnes 61 607 pièces à 50 000 par année pour payer ça. Il y a personne de la classe moyenne qui devrait logiquement se payer ça, même s'il y a des économies d'essence, parce que c'est décadent. C'est plus d'une année de ta vie brute à travailler. Donc, finalement, qui on subventionne? On subventionne des gens qui ont plus d'argent et les constructeurs automobiles. Et la question que le gouvernement doit se poser, c'est que oui, la méthode est bonne. Oui, on a de l'énergie verte. Oui, nous, au Québec, on fait de l'hydroélectricité. Mais à partir de quel moment on va diminuer les subventions? Parce que les analystes qui voient, c'est que dans le futur, plus il y aura de ventes de véhicules électriques, plus il y aura d'impression, de fabrication de pièces, et par conséquent, il y aura une diminution du coût de fabrication. Il y a un moment donné que sans les subventions, on va arriver à ce point où il sera plus rentable, en pur homo economicus, de prendre une voiture électrique. Mais en attendant, on est quand même, comme gouvernement, en train de subventionner les compagnies, donc les fabricants, les concessionnaires d'automobiles, et les mieux nantis qui s'achètent des véhicules électriques. Alors, si on fait le parallèle avec Notre-Dame de Paris, on demande aux contribuables moyens, dans le moment, hein, d'ici le 30 avril, Paul,
oui,
de payer de l'impôt pour subventionner les gens qui vont s'acheter une voiture, disons de luxe, ou qui leur donnera un avantage personnel. C'est quand même quelque chose de drôle. Alors, Paul, moi aussi, je vais peut-être prendre la voiture électrique prochainement, dans les prochaines années, mais elle sera évidemment usagée, donc beaucoup moins chère.
Non, mais ça... Le contraire nous aurait étonnés.
Il est venu le temps de la voiture électrique.
Exact. Salut. Bonne journée. 7h22.